Bon. Ah, c'est Géraldine Manant qui est la modératrice. C'est la doyenne de la modération.
Une vieille modératrice.
Nous adressons maintenant à la doyenne du forum.
Parmi nous. Forum, peut-être, mais... J'ai rien à dire.
C'est bien. Non, mais c'est allez, Didier, alors, on n'est pas obligé de faire un tour en vain.
Tu peux dire que chacun dise ce qu'il peut dire, mais éventuellement, s'il y a des questions, est-ce qu'on vient de découvrir quelque chose, vous ne connaissez pas, est-ce que c'est vrai, ça peut être des choses comme ça.
Hein. Ouais, mais moi, je ne vais rien dire.
Très intéressant.
Très intéressant. Vas-y.
Jean-Marc. Je disais, très intéressant à faire. Tous les jours, un texte. C'est pendant une heure et demie, deux heures.
Il ne faut pas qu'il soit bien long. Parce qu'il faut prendre quatre fois le même texte.
Un chapitre. Je dis Luc 10, par exemple, un chapitre. Tu as 30.
Mais les jésuites, qu'est-ce qu'ils font hein, quand,
Oui,
c'est un peu ça, un exercice spirituel. Ah, j'expliquais quand on y allait avec Frédéric. Des études de texte sur la Bible.
Vous trouvez un jour quelqu'un qui déprime complètement
Une angoisse pas possible. Invincible. Écrasez le type. Écoutez, vous le prenez avec vous ou tout seul, tu dis, écoute, tu prends la Bible, tu prends l'Apocalypse, j'ai bien dit, l'Apocalypse. Et pendant une demi-heure, tu lis, parce que c'est le livre de la révélation, pour l'espérance finale. Alors si l'angoisse, elle est invincible, tu t'écrases complètement, tu prends l'Apocalypse, tu murmures l'Apocalypse, tu la lis comme ça. Au bout d'une demi-heure, c'est fini, il n'y a plus l'angoisse.
Le vôtre,
parce que...
Le vôtre ou votre livre?
Non, la Bible.
Ah, la Bible.
Alors, dans un deuxième temps, ensuite, tu peux lire le livre du Père Nathan,
que le Père
qui
Nathan,
explique pour faire le remède. Pour faire le remède.
Le livre, il rentre dans votre peau. Vous lisez.
Oui, parce que le remède, du coup, tu te nourris du remède.
Ah, ouais, ah non, mais c'est extraordinaire.
Et ensuite,
tu lis l'Apocalypse du Père. Ça te rentre dedans. Ça te. Ah, mais c'est.
Mais
c'est formidable. Ça ressort aussi.
Parce que tu connais le Père Patrick.
Non, celui qui n'a jamais vu. Celui qui n'a jamais vu.
Je répète, celui qui n'a jamais vu Patrick, qui n'a jamais entendu, tu as dit sur l'exercice, c'est pas la même chose. Donc, il y a. Quand je dis Patrick ou un autre prêtre. Hein,
Olivier n'est pas d'accord avec ce que tu dis, Bruno, là.
Non, j'écoute.
Ah bon
Le Père Marie-Dominique Philippe disait. Lui aussi, il a fait des séminaires sur l'Apocalypse, et lui, il disait ce que j'entends sur une cassette, et il disait, c'est quand même pas pareil d'entendre une cassette audio, où pourtant on l'entend parler, on a carrément un, et c'est, si vous me voyez, si vous assistez, etc., vous m'entendez, et bien vous pénétrez beaucoup plus dans ce que je suis en train de vous dire. Donc ça c'est vrai, mais alors si en plus tu n'as même pas entendu en audio, en vidéo quelqu'un, tu pénètres pas la personne, donc il n'y a pas une relation, tu es dans le virtuel, et donc... Céline, on est dans un dialogue face à face. Ce qu'on a fait pendant cette retraite, je répète, on a eu des exercices en petits groupes de 5-6 à partager comme ça, chacun ce que, première étape, qu'est-ce qu'on a reçu, c'est quoi la lecture objective qu'on fait de ce texte, hein, l'espèce de, voilà, et puis ensuite, on partage ensuite la partie, tiens, qu'est-ce que le Seigneur m'a dit, on dit, tiens, voilà, alors c'est un partage fraternel, on dit, qu'est-ce que j'ai reçu, c'est intéressant, parce que finalement, on voit la manière dont Jésus parle à chacun, et qui est très différente. La parole de Dieu sous un véritable arc-en-ciel. Et après, troisième lieu, je réponds, c'est-à-dire je témoigne, moi, que je réponds. Hein, je dis, ouais, si je réponds, je ne sais pas répondre, et puis on faisait des exercices comme ça, de la même façon, où on était en binôme, c'est-à-dire qu'on n'était plus que deux, face à face. Si je rencontre donc une personne avec qui, on va prier ensemble, est-ce que tu acceptes de faire ça avec moi, c'est possible. Et de voir finalement, lui, il va profiter de la nourriture que j'ai reçue, et toi, tu vas profiter de la nourriture qu'il a reçue, même si elle est éphémère. Et on va progresser ensemble. Vous voyez, c'est comme un compagnon qui accompagne un autre. Hein. Eh bien, je peux vous dire que dans le binôme, c'était encore plus fort que dans les groupes à 5 ou 6, même si c'était beau cet arc-en-ciel, c'était magnifique.
Ah, c'est magnifique.
C'est extraordinaire. Vous voyez, dans une communauté monastique qui a l'habitude de faire ça, ben, attendez, les homélies sont toutes préparées. Il n'y a pas de souci. Vous avez, c'est, fermée ce dimanche, vous voyez, vous faites la lecture finale sur les évangiles que vous allez entendre dimanche. Quand vous entendrez le sermon du prêtre, vous allez, vous, avoir des tas de choses que vous avez reçues dans l'Alexio Divina.
Non, le prêtre ne fera pas le même sermon parce que tu as fait de l'Alexio Divina avant. Et comme tu es donc un réservoir d'inspiration pour le prêtre, et l'homélie ne sera pas la même du prêtre parce que tu es là.
Exactement, exactement. Et même à travers son homélie, tu vas découvrir non seulement ce qu'il dit, non seulement ce que tu as trouvé, mais en plus ce qu'il va dire en plus, et même ce qu'il ne dit pas, tu vas le découvrir. Donc il y a quand même une, vous voyez, une parole de Dieu qui devient extrêmement riche, quoi. C'est Jésus qui me parle, et il parle à toute la communauté, à toute la paroisse, quand même. C'est quand même sympa.
Ah, Isabelle.
Voilà.
Isabelle, dis-toi, Isabelle.
On a eu le spirituel, maintenant on va
voir. Oui, spirituel, oui, vas-y. Toi, tu éprouves quelquefois. Quelquefois quand. Hein? Dis-nous un petit peu, là. Tu as la parole de Dieu. Allez, je sais pas moi. L'évangile, il est lu, par exemple. T'as jamais rendu compte que certaines interventions. Direct de Dieu, quoi. Du ciel.
si j'ai eu quoi?
Est-ce que Jésus t'a parlé à travers une parole de Dieu?
La parole de Dieu, elle est dite par exemple dans. On proclame l'évangile, on proclame le. On lit elle, tu vois. Tu as eu des signes quand même.
Si un jour, que un Dieu, jour, on m'a parlé, on m'a dit tu ne connais pas les 10 commandements. Et on m'a énuméré les 10 commandements. Mais pas une voix intérieure. Hein. Une voix vraiment. Tu ne connais pas les 10 commandements. Et j'ai le droit là, j'étais assis dans le fauteuil. Salon de Frédéric, à Nîmes. Et j'ai entendu les 10 commandements.
Le Deutéronome. Le Deutéronome.
Même ça, c'est une voix extérieure. Ouais, oui, un ange
gardien.
Tu as fait l'Alexio Divina du Deutéronome avec ton ange gardien.
Tu
as fait l'Alexio Divina. Du Deutéronome avec ton ange gardien.
C'est l'ange gardien qui l'a fait pour lui. C'est ce qu'il a entendu. Il a entendu son ange gardien dire la Deutéronome. Comme il ne pouvait pas le faire lui, c'est l'ange gardien qui l'a fait pour lui. Il a entendu.
Il y a une différence entre les. C'est vraiment une question ouverte. Entre les paroles de Dieu et la parole du Christ. Moi, ce que j'aime dans votre. Ce que j'arrive à lire comme tel, ce sont les paroles de Christ, telles qu'elles sont rapportées. Alors que le reste me paraît du plat et douteux. Tout ce qui est autour, ce sont les commentateurs, ceux qui ont vu, ceux qui regardent, qui font leurs prières, tout ça, j'ai beaucoup de mal.
Les épîtres, tu veux dire,
ou dans l'Ancien Testament, partout, enfin, partout. Il y a quand même quelque chose qui est à part, c'est les paroles de Jésus. C'est pas la même chose. Comment on fait faire la lecture? Là, oui, je peux entendre la parole de Dieu dans la lecture. Mais pour le reste, j'entends pas la parole de Dieu.
J'entends parce que vous n'êtes pas assez. Vous n'êtes pas assez juif. Si vous étiez juif, vous entendriez Jésus. Dans toute la parole de Dieu, chaque lettre, c'est Jésus qui parle. Vous savez que la Torah, c'est-à-dire les quatre premiers livres de la Bible, quoi, les cinq premiers livres de la Bible, ils ont été dictés par Jésus à Moïse. Vous savez ça?
Comme ça, on fait.
Quand Moïse a sorti le peuple d'Israël, c'est Jésus qui a sorti le peuple d'Israël de l'Égypte. Il y avait quand même la présence de Jésus en avant du peuple de Dieu, en arrière du peuple de Dieu. De temps en temps, en avant du peuple de Dieu, le bon berger, le Messie d'Israël, Jésus, était en avant. Tous les enfants d'Israël voyaient Jésus. Hein. Ils voyaient la lumière de sa présence lumineuse, exactement comme on voit la lumière de la lune, la nuit. Ils voyaient bien. Il y avait l'ombre lumineuse, la nuée, la gloire, la transfigurante présence du corps spirituel de Jésus qui allait venir. Qui était là. Et chaque jour, pendant 40 ans, hein, quand même, 40 ans, ça fait quand même. C'est pas mal. Ça fait quand même, je sais pas moi, 16 000 jours.
dans le désert, il était là aussi dans le désert et tout.
Ah bah oui. Oui, pendant ces 40 ans, ça a duré 40 ans, c'est dans les Actes des Apôtres avant-hier. Ouais, ça a duré 40 ans. Chaque jour, non mais c'est pas, c'est quand même incroyable. On entendait la trompette. Ça s'appelle le chauffard. C'est pas le chauffard. La trompette, celle que les Gédéons ont une trompette. Avec la cruche et la torche, ils ont une trompette. Eh bien, on entendait le chauffard. Pourquoi ? Parce que Moïse sortait de sa tente, il descendait, et du coup, on sonnait de la trompette. Pourquoi ? Parce qu'il descendait, il remontait sur le versant un petit peu opposé de la colline, là, un petit peu comme si c'était là-bas, à la frondaison. Et tous les enfants d'Israël sortaient de leur tente. Tous. Parce qu'ils assistaient à un spectacle incroyable. Et c'était tous les jours. Ce spectacle, c'est que la lumière, la porte de la tente de réunion, vous savez ça, était... Jésus l'attendait. Et c'était la lumière, c'était la transfiguration. La porte était transfigurée. C'était Jésus. Jésus, je suis la porte. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire que ça. Hein, mais... Et puis du coup, il rentrait dans la tente et le Messie enseignait lettre après lettre la Torah à Moïse. En lui donnant sa signification dans le Pshat, dans le Chumash, dans le Drash et dans le Sod. Et la Torah donc est sortie de la bouche du Christ, elle a été reçue par Moïse, c'est comme ça qu'est née la Torah écrite. Et Jésus donc parle à travers chaque lettre, chaque mot, et chaque chose, c'est lui qui s'exprime, c'est lui qui se révèle. Toute l'écriture, comme il dit au pèlerin d'Emmaüs, toute l'écriture s'accomplisse, pas une seule lettre, pas un seul point de la Torah qui n'exprime pas ce que je suis. Et ce que j'accomplis. Et si vous étiez juif, voyez, brûlé par la vie surnaturelle du Saint-Esprit, toutes vos neurones comprendraient immédiatement ça dans le pshat et dans le remes. Moi, je trouve un truc. Il y a un truc que j'ai la présomption de croire, c'est que de penser, c'est qu'il va y avoir la conversion d'Israël avec l'avertissement. Précisément, on va tous pouvoir rentrer dans la bar mitzvah, c'est-à-dire dans cette capacité d'entrer dans ce qu'il y a de plus élémentaire dans la mendication de ce qu'il y a de basique, si je veux dire, dans la révélation de la Torah, de la Bible. Mais même chaque lettre, quelquefois les cinq premières lettres de l'alphabet, ça me suffit. Je fais mon chat avec mes cinq premières lettres de l'alphabet. C'est la parole de Dieu. Hein. C'est Jésus qui a fait inscrire sur la pierre, quand même, les lettres de l'alphabet de la Torah. Sur le roc, avec du feu. Et bien ça, voilà, ça, de savoir ça, un juif, quand il se nourrit de la parole de Dieu, ça lui fait aucun problème de dire, mais ça, c'est une nourriture. À un enfant, tu expliques, la maman explique ça à l'enfant, elle va commencer par les cinq premières lettres de l'alphabet, à quart d'heure. Voilà. Cinq fois quatre, vingt.
Hein?
Elle a une minute par...
Un texte,
une minute pour chaque aspect.
Moi,
j'ai vu ça de mes yeux. Hein?
Quelle différence entre Saint-Jean, Saint-Luc,
Saint-Mathieu
et tout.
Dès l'âge de 6 mois. Pardon.
Donc je disais avec les jésuites, on parlait de les quatre apôtres.
Évangéliques, on va en parler.
Mettons la multiplication des pains. Bah, chaque apôtre a sa version des faits. Et on étudiait justement la différence entre les quatre apôtres sur ce même texte.
Les quatre évangiles, oui.
Mais alors on fait des
exégèses. C'était assez marrant, c'était assez édifiant de voir la différence. Chacun devait donner son commentaire et tout.
Ah, ça commence à devenir de la théologie. C'est plus la
meilleure. Ah bon ?
On fait rencontré un texte d'écriture avec un autre texte d'écriture, on fait du silex. Et là, ça, la théologie commence, là. C'est plus de la lecture divine, mais c'est vachement intéressant. Très intéressant, la théologie, c'est la science.
C'est la théologie, hein, c'est la science de Dieu.
La science
c'est
de Dieu.
Tu commences à raisonner. C'est plus Jésus qui te parle.
Pourquoi tel apôtre écrivait ça comme ça? C'était quand même... pour voir on essayait de trouver le caractère de l'apôtre. Pourquoi?
Hey, là, c'est
dégueulasse,
de comprendre l'instrument.
Oui, c'est ça.
J'ai pas laissé passer
Véronique. Pardon, Véronique. Tu peux parler plus fort parce que il y a du vent, alors.
Non, ce que tu disais, Bruno, me fait penser beaucoup à Petite Sœur de l'Agneau.
Ah oui.
Des fraternités.
Oui.
Alors, quand j'étais à Béthune, elles sont à Béthune. Effectivement, elles pratiquent la mendication, elles disent beaucoup. La mendication.
Qui suivait.
Chacun disait ce qu'il avait retenu.
Ouais.
Quel mot, ou il répétait simplement le mot, la phrase. C'est un petit tour comme ça.
Ça, c'est assez extraordinaire. On a fait ça pendant la période de Carême dans la paroisse où j'étais avant d'aller à Versailles. Et donc, c'était assez étonnant parce que finalement, il y avait des gens de la paroisse. On dit, hein. Voilà, et ben, on s'était inscrit à 80 dans une paroisse, c'est extraordinaire. Et c'était ça, c'était le soir, et on lisait un texte, la parole de Dieu, et comme pour les sœurs de l'agneau, parce qu'elles sont venues aussi dans une paroisse, donc on partage, on lit la parole de Dieu, et puis on fait un tour, chacun doit dire quelque chose. Personne ne dit rien. On peut dire. J'y comprends rien, ou au contraire, ça me choque un truc comme ça, ce truc-là. C'est pas possible d'écrire ça dans l'évangile, c'est facho, c'est misogyne, tout ce qu'on veut. Enfin, on peut avoir toutes les interprétations possibles. Et donc tout le monde se mettait à parler, et on faisait un tour. Et après, quelqu'un, quand on avait fait le tour comme ça, on refaisait un deuxième tour. De ce que les uns et les autres avaient pu dire, on y a fait un hasard. Évidemment, il y avait eu une période de. On avait manduqué un peu avant. Et on relisait la parole de Dieu, et on reprenait un peu en silence, ensemble, et après on faisait un tour pour prier. C'est-à-dire, qu'est-ce que la dernière partie, que ce que j'ai dit, pour prier sur ce texte, c'est-à-dire qu'est-ce qui m'inspire de prier à Jésus. Voilà, pour la voix. Je peux vous dire que. La paroisse de Dieu était devenue une communauté de frères et sœurs. Alors que dans ces paroisses, souvent, on est à côté les uns des autres, on ne se connaît pas. Voilà. Et bien là, on dit... Et puis en plus, il nous révèle des choses très très belles sur la parole de Dieu. C'est, quand je parlais de l'arc-en-ciel, plusieurs fois, c'était quelque chose de très beau. Donc quelque chose de très simple, finalement. Donc c'est vrai que ça se rapproche un peu de ce que je disais.
C'était à Versailles, la communauté.
Non, c'était à la Garenne-Colombe, mais c'était pas mal. Et alors justement, le proposer dans une paroisse, c'est quelque chose qui peut être très intéressant. Et il y a une chose qu'on a proposé dans la paroisse aussi, c'était très étonnant, c'était avec Notre-Dame de Vie. Notre-Dame de Vie, vous connaissez peut-être, c'est c'est du côté dans le sud là, avec Père Jean Eugène, le mari de l'enfant Jésus. Et là c'est pareil, c'est la paroisse de l'oraison. Alors on avait dans la paroisse, on avait dit on va faire venir les gens de Notre-Dame de Vie, c'est 5 mardis de soir de suite. Les gens bossent comme des cinglés là, donc ils viennent chez eux vers 8h du soir. Et donc, vous venez à 8h du soir, on vient à un frishti, tout le monde est mangé, et on reste 2 heures là-dessus. Donc 2 heures, 5 par les suites. Et c'était pour apprendre l'oraison. Et bien écoutez, dans cette paroisse là, c'était des gens qui ne se parlaient pas, 70 inscrits la première fois. Tombés des nues, quoi. Tout le monde veut apprendre à prier avec le cœur. Ouais, eh bien,
Et ben, vous voyez, c'est beau. Et on peut se faire aider par les sœurs de l'agneau, on peut se faire aider par les infâmes de vie. Ils viennent pour évangéliser, et puis ils vont vous dire, ils peuvent en faire un enseignement, ce que c'est que l'oraison, etc. Et puis, vous voyez, c'est... Bon, c'est pas l'Lectio Divina, mais on pourrait le faire pour l'Lectio Divina. L'oraison, c'est encore autre chose. Et là aussi, on avait des partages, vous voyez, ce soir, on avait des partages entre nous. On avait un enseignement, on avait une pratique, on allait faire oraison ensemble devant le Saint-Sacrement. Et après, le mardi d'après, on avait une pratique à faire, l'oraison chez soi, quotidiennement. Et on partageait en petits groupes sur ce qu'on avait reçu de l'enseignement et sur comment on avait vécu pendant la semaine. Vous voyez. Et on a découvert, vous voyez, on découvre tout de suite, c'est extraordinaire, les frères et sœurs, qui sont à côté de nous, qui participent à la messe et qui finalement, c'est Jésus qui leur parle, voilà, c'est magnifique, c'est extraordinaire de voir ça, cette conversion, voilà, en douceur, c'est très beau. Et je crois que c'est aussi un appel aussi à la mission, même à l'intérieur de nos paroisses, souvent, c'est quelque chose qu'on peut découvrir nous-mêmes et c'est quelque chose qu'on peut découvrir ensemble, voilà. Et alors, pourquoi pas sur le forum Le Peuple de la Paix, c'est un autre sujet, mais... Pourquoi pas, mais c'est pas impossible. En tout cas, oui, c'est pas forcément compliqué à faire comprendre que c'est quelque chose de beau. Merci, l'histoire de l'agneau. Ouais.
Question, les paroisses, ils organisent des paroles d'évangile. Est-ce que c'est la même chose, les paroles d'évangile?
Je t'explique si tu... Mais c'est organisé, je sais pas. Ça consiste en quoi, on sait pas. Et moi, je sais pas.
Je sais pas.
Non, tu n'as pas participé.
Ça se base un peu sur le même. On partage les paroles d'évangile, et puis après, on a dit. On a...
Je pense que ça va être... C'est un peu ça, ouais.
C'est un peu le même. Le scénario est à peu près le même.
Il y a plusieurs modes, ouais. Non, mais vous voyez, c'est un peu les mêmes approches, mais avec. Là, on est à la spiritualité de Saint-Ignace.
On avait fait Saint-Ignace. Et vous, là, avec des trucs.
Vous voyez, la fin du papier que je vous ai laissé, c'est on rentre dans l'oraison, ce que Patrick a appelé, je sais pas quoi, le drach, ou le sod.
En hébreu, le sod, c'est le secret.
Le sod, pardon.
Le sod, c'est le secret.
Le secret.
Alors, je peux vous donner aussi un conseil, allez dans le site. À Erosbar. Demandez au Père d'organiser un pèlerinage à Erosbar pour que tous vous ayez la grâce de l'oraison. Demandez-lui.
Ah, c'est pas Erosbar.
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 En Allemagne. C'est
pourquoi
en Allemagne.
Tu dis ça?
On louerait un quart et on irait tous là-bas. Moi, j'aimerais bien y retourner. Ah oui, oui. C'est...
Alors, petit enseignement sur Erosbar. Comme tu y étais, tu peux en parler. Vas-y.
Alors, je vous explique. C'est un lieu qui est en Allemagne, à côté de Munich. Lorsque le monde entier a dit que la Sainte Vierge devenait la reine du ciel, la reine du monde, qui ont accepté. Le ciel, pour remercier les hommes, ont ouvert le ciel.
Au dogme, quand le pape a proclamé le dogme de l'Assomption de Marie en 1950.
Le pape, le ciel s'est ouvert sur Erosbar. Et sur Erosbar, ce lieu, tous les saints, tout le monde est descendu sur la terre. Et c'était extraordinaire et tout. C'était là où on voyait la Sainte Vierge, le petit Jésus, le grand Jésus, enfin tout. Et notamment la Sainte Vierge, il y avait trois petits voyants qui les voyaient vraiment. Elle a demandé de creuser un trou avec des petites cuillères. Et les petits enfants ont creusé un trou immense. Et vraiment, là, c'est des escaliers qui descendent comme ça. Et là, il y a. On appelle ça un socle, et là vous remontez. Et quand vous êtes en bas, là, il faut prier, il faut être vraiment en prière et tout, vous restez comme ça, et là vous êtes directement avec le ciel.
Avec le communion, avec tous les saints qui sont descendus.
Et voilà. Ça vous ouvre, moi je sais que ça m'est arrivé. En plus, c'était au début de ma
conversion,
on appelle ça.
Conversion.
Conversion. J'étais au ciel. Enfin, tout d'un coup, j'ai eu une force.
Tu venais de te confesser.
Formidable. Et juste après, ben, j'avais la grâce de l'oraison.
Pas endroit,
parce, alors, parce que Jean-Marc n'arrivait pas à faire oraison. Faut préalablement, il savait qu'il n'arrivait pas à faire oraison.
Comment ?
Je n'avais pas fait goûter.
Ah ben faut demander au père, c'est lui.
À côté de moi,
comment ça s'écrit, Rosbard ?
H-E-R-O-L-D. S. Bar. Alors, tu venais de te confesser, tu te rappelles ?
Ah non, pas que ça.
Eh oui. Et du coup, tu rentrais dans tu rentrais dans les molécules creusées par la descente de Marie de tous les saints à l'intérieur de cette terre, et que tu es ressorti.
Ah oui, parce que
Et du coup, tu as pris possession du corps spirituel émanant de l'Assomption de la Sainte Vierge corporellement descendant sur la terre. Tu rentrais là dans ces molécules d'air là, tu as respiré et tu as fait ta pénitence de la confession. Ah, tu pourrais pas nous dire en quoi consistait cette pénitence?
La première chose que le père m'a dit,
le confesseur.
J'étais divorcé depuis 10 ans. Il me dit, tu dois renouer.
15 ans.
Depuis 10 ans. Tu dois renouer. Enfin, maintenant ça fait. Tu dois renouer avec ta femme. Je dis, mais ça va pas. Ça fait plus de 10 ans que je suis divorcé. Comment
J'ai pas vu.
Ça voit très peu. Non, tu te débrouilles. Tu dois renouer avec ta femme.
Tu dois réactuer le sacrement sur la terre de mariage.
La responsabilité avec ta femme. J'ai la porte fermée, enfin, c'est pas possible. Et bien petit à petit, grâce à lui, enfin il est au ciel, bien sûr.
Au ciel, bien sûr.
Donc tu es allé chez ta femme ou pas?
Petit à petit, donc.
Petit à petit, mais non, ça a été. C'est pas petit à petit. D'un seul coup, tu as frappé à la porte.
Non, mais petit à petit, ça c'était. On est d'abord allé à Rosbar, après on est allé à Naples,
Je parle de ta femme, moi.
Donc je dis, un an après. Grâce à mes enfants, j'avais commencé à renouer avec elle. Et je partais à Jérusalem. Et je suis revenu 3 semaines après de Jérusalem et je lui avais dit, écoute, j'habite Nîmes, toi tu es à Versailles, quand j'arrive à Orly, je ne vais pas arriver à 14h du matin, tu me réserves une chambre. Je prendrai une chambre de ton appartement. Elle me dit, oui, mais tu ne rentres pas dans ma chambre. Non. Alors, j'arrive de Jérusalem. Grâce sur grâce, on n'a pas pu, enfin, vraiment c'était extraordinaire. Et j'étais vraiment une prière, un truc extraordinaire. Et quand j'arrive chez mon épouse, donc on n'avait pas renoué du tout, enfin rien.
C'était
son épouse? Oui, c'était son épouse.
Son épouse?
Il ne s'est jamais remarié avec quelqu'un d'autre.
Non. Et quand j'arrive dans l'appartement, elle me met dans une chambre et tout. Une force comme ça qui me lève là. Je rentre dans sa chambre. Alors, n'ouvre pas, Nini. Je passe l'escabeau et tout ça.
Ah, parce qu'elle avait bien. Elle avait barricadé. Elle avait tout barricadé.
Alors, je rentre dans la chambre. Oui, qu'est-ce que tu m'as fait, Titi? Alors, je dis non, je m'allume à côté de toi et c'est tout. Je ne te touche pas, rien du tout. Alors, ce que je vous dis aussi, c'est que je suis très sensible et tout, et jusqu'à maintenant, il y avait tellement de haine, de jalousie, de rancœur, d'amour aussi, parce qu'elle m'aimait encore beaucoup. Ce qui fait que je ne pouvais pas rentrer dans l'appartement. La première fois que je suis rentré dans l'appartement, première chose à faire, je suis reparti tout de suite, j'ai signé mes papiers, et je suis reparti tout de suite. Mais, une angoisse, c'est pas possible. Donc là, j'arrive. Là. Il y avait toujours donc cette angoisse, cette truc. Je commence à prier, et mais un truc très très fort. Tout d'un coup, comment on appelle
Un éclair.
La croix, non. La croix, une croix, sur nous, mais toute lumineuse, et qui nous, enfin, un truc pas possible qui nous envahit, tous les deux, pas que moi. Hein.
Parce que mais tu étais rentré dans sa chambre,
déjà. Très fort.
Enfin, je vous salue. Non, tu la touchais, et tu disais, je vous salue Marie, tu oublies. Et il dit, je vais faire, à travers ça, transactation surnaturelle sponsale du sacrement de mariage. Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là cette croix lumineuse qui vous a pénétré tous les deux. Bah oui, attends. Tu as fait un acte de transactation surnaturelle sponsale, quand même.
Elle ne le faisait pas.
Mais toi, tu l'as fait.
Tu l'as fait en touchant ton épaule.
Mais oui. Et elle l'a vu, enfin, elle a vu l'éclair, enfin, elle a vu vraiment le truc.
Mais toi, tu as vu la lune.
Et juste après, une joie dans cet appartement, rien. Tout était reparti. Tout était. Tout était lavé, tout était les souillures, tout ça, tout était. Enfin, c'était extraordinaire. Enfin, Mamelle, elle s'en est rendue compte, elle vous l'a dit.
Moi, elle me l'a dit. Jean-Marc, il a vu de la lumière. La lumière, elle était complètement. Un espèce de phare de lumière. T'as vu ça, t'étais complètement ailleurs.
Ah oui. En fait,
et elle a dit, moi j'ai pas vu la lumière, mais c'était tout brûlant à l'intérieur de moi. Pour la première fois au bout de 15 ans, il fait un acte de transactuation surnaturelle responsable de sa commande mariage. Bon,
donc on avait un peu... pas contents de leur mari.
On lui avait expliqué comment on faisait pour faire... Hein,
ceux qui sont pas contents de leur mari, qui ont des problèmes avec leur mari, il faut qu'ils réussissent à refaire ça.
Voilà, tout simplement.
Il faut que la main sur l'épaule, tu rentres dans le sacrement unité frontale et c'est Jésus qui s'en occupe. Voilà.
Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est ça, c'est qu'il y a eu une lumière visible et un feu sensible.
Et puis c'est pas fini.
Ah non, bah
quand
non.
Et le lendemain, j'étais dans la chambre. Dans la chambre de ma femme, enfin, si on le dit. Tout d'un coup, je ne vois plus le plafond. L'appartement grand ouvert. Qu'est-ce qui va m'arrêter? Je voyais les étoiles, hein, le ciel. Et puis tout d'un coup, je vois ce qu'on appelle la nuée. Je vois un nuage énorme. Qui arrive de là-haut et qui descend, qui envahit la chambre. Alors, bien sûr, ma femme ne voyait pas. Et le nuage descend, envahit toute la chambre, une nuée comme ça. Et à un moment donné, le nuage a commencé à se diminuer et tout. Je vois Jésus à côté, sur ma guise.
Sur Marie-Christine.
comme ça, avec la croix, il était le pauvre, avec la croix sur le dos, là, sur ma tête, enfin, j'avais ma tête, comme ça. Et c'était à l'époque où je faisais des rosaires sans arrêt. Enfin, et j'étais en train de prier le rosaire. Et alors, je disais, oh là, je dis vraiment, tu dois. Enfin, je lui parlais, enfin, je disais vraiment, tu dois souffrir. Vraiment, et puis, son ventre, il y avait son ventre comme ça. Et il faisait comme ça son ventre. Et il y avait la tête, alors je pense que c'est la tête de Dieu. C'était un vieillard avec une grande barbe et tout. Et alors, il faisait comme ça, il me regardait, il me souriait comme ça.
C'est vraiment là. C'est indescriptible.
Et il se marrait, enfin, il me faisait un grand sourire. Enfin, un sourire. Et j'entame.
Non, mais là, Marc-Christine était en face. Il était en train de faire une transactuation.
Et j'entame les douloureux. Jésus se déplace. Il se met sur moi. Il me met sur la croix. Alors, j'étais sur la croix, comme ça. J'avais la croix sous moi. Et puis, j'avais ses mains. Alors, il y a des mains. Oh, des mains costauds. Hein. Des trucs comme ça. Dans ses mains, comme ça. Mes pieds, dans ses pieds. Et on a fait les douloureux, enfin, c'est tous les douloureux. Puis quand j'entame les glorieux, ils se déplacent, et à un moment donné, je vois une tache qui commence à se lever par rapport à ses genoux. Et tout d'un coup, je vois la personne se lever, c'était la Sainte Vierge. La Sainte Vierge, elle vient, elle se déplace comme ça, elle vient sur moi,
Là, elle était là. Et elle me prend dans ses bras. Et j'étais comme ça, bercé par la Sainte Vierge. Mais vraiment, je sentais les bras de la Sainte Vierge et tout. Enfin, vraiment, comme ça et tout. Et à un moment donné, il y avait mes mains. Je sens des petits pieds qui bougent et tout. La Sainte Vierge se baisse. Elle prend le petit Jésus qui était dans mes mains. Elle le prend comme ça, elle le met dans ses bras. Et elle me le tendait comme ça, tac, pour que elle me le montrait. Après, j'ai vu Saint-Joseph.
Il y avait Marie-Christine, là.
Oui.
C'est formidable, la messe pour ça.
Ah oui, non, mais ce qui était formidable, c'est qu'elle le voit. Et j'ai vu Saint-Joseph qui est venu voir et tout. Après, Saint-Michel Lacan, qui a fait toute la chambre et tout. Et après, mes anges gardiens. Et depuis ce jour-là, je vois tout le temps mes anges gardiens.
Dès que tu rentres dans la chambre de ta femme, il y a toujours.
Ah non, mais je vois mes anges gardiens aussi.
Dès que tu rentres dans la chambre de ta femme, tu vois toujours les anges gardiens.
Ah oui.
Lumineux que tu as vu, c'est la première
fois. Mais maintenant, je les vois aussi autrement.
Ah ouais.
Pas seulement en présence de Marie-Christine.
Au début, c'était ça.
Au début, c'est
vrai que Marie-Christine est toujours présente, même quand c'est Marie-Christine.
C'est ça l'unité de Fonsal.
C'est du mystique. C'est quand même formidable.
C'est costaud, là.
Voilà. Pour ça, vous voyez.
Mais c'est quand même un témoignage parce que je précise pour les scientifiques, n'est-ce pas? pour les génies scientifiques, c'est que, si tu permets que je dise un petit mot à ton sujet, c'est qu'il il était aveugle de l'œil gauche ou droit, je ne me rappelle plus. De l'œil droit. Il a été guéri miraculeusement, donc maintenant tu y vois. Mais
c'est
il est resté.
Le qui rentre dans mon œil.
Mais il est resté l'équivalent d'une petite tête d'épingle qui reste noire. Et cette tête d'épingle, si on la regardait, il faudrait scanner en fait. C'est un petit peu comme un espèce d'écran, quoi. Tu vois, tu mets un petit truc appuyé sur votre œil, vous allez voir, ça prend quand même un certain espace. Et il a donc un écran de télévision dans l'œil.
Ah oui.
Il a un écran de télévision dans l'œil. Et
ce qui fait que j'ai vu l'Apocalypse avec le père. Ils m'ont amené dans l'Apocalypse. On était à sa fac. Et je racontais tout ce qu'on allait voir, je le voyais avant.
Hein, oui, tout à fait.
Ah non, quand il
avec son écran, avec son écran de télévision, il voit des choses là, que les autres ne voient pas. Mais qui sont dans la situation dans laquelle on se trouve. S'il y a un ange qui se balade,
je vois les démons et les anges, par exemple.
Si, etc. S'il voit, et c'est comme ça qu'il voit, qu'il a vu la lumière de la sponsalité dans sa femme, qu'il n'avait pas vue depuis 12, 13 ans.
Ah bah oui.
C'est embrasé complètement, transfiguré sa femme, à cause de l'écran de télévision qui était là. Mais c'est une espèce de, je m'excuse, c'est une manière de parler, c'est pas un écran de télévision, mais n'empêche que oui, si, il y a un phénomène, qui est pas normal, enfin, qui est inhabituel.
Oui, devant le Saint-Sacrement, où tout d'un coup...
C'est la guérison de l'aveuglement, mais il y a cette petite pointe d'épingle, là, à l'intérieur de ton œil, qui fait qu'en même temps, il voit des choses que nous, on ne voit pas.
Et tu es encore j'entends.
Voilà, bon. Mais c'est une anomalie.
Et puis je voyais.
Mais elle aurait une explication. Il y a une explication.
Avant, c'était pas tellement comme
sans doute. Ah oui, il y a une explication.
Je vois les anges comme ça. Qui font ça.
Si, il y a une explication.
Si, à tous, ils sont en train de soigner mon œil.
Ce n'est pas miraculeux. Voilà ce que je voulais dire. Vraiment, ce qui a été miraculeux, c'est qu'il a retrouvé son œil. Il le voit à nouveau.
Je voyais ça, oui. Que je ne voyais pas.
Bon. Bon, alors pour la lecture du.
Qu'est-ce qu'il y a plus fort? Qu'est-ce qu'il y a mieux comme témoignage?
Il n'y a pas de question de mieux.
Ah, ben là, je crois qu'on est.
Christine, en plus, Christine. Surtout, Christine, c'est la deuxième fois que tu l'entends.
C'est curieux,
en
plus.
C'est la deuxième fois que tu l'entends. On l'a eu dans la voiture.
Je suis content que tu parles de ça parce que.
On l'a eu dans la voiture.
C'est important.
Mais peut-être qu'au retour, j'aurai.
Non, parce que retour, il se reste là, du tout. Voilà, bon, écoutez...
Non, mais un jour, j'écrirai peut-être un livre.
Oui, c'est ce que j'allais dire, là, ça mérite.
On a un forum qui s'appelle Le Peuple de la Paix, et il est intéressant d'avoir des témoignages, alors peut-être pas...
Non, mais ça, il faut demander conseil au père.
Non, mais on te prendra en vidéo.
Voilà, et j'ai proposé, c'est que Jean-Noël le prenne en vidéo et qu'on propose ça. Et s'il te plaît, Patrick, pas des vidéos de 45 minutes, tu vois, des vidéos de 7 minutes.
Bah, évidemment. Ah.
des vidéos de 7 minutes.
Mais ça vaut le coup, hein,
je
pas...
Non, écoute-moi, Marie-Victor. Ah, je te dis, moi, ce que ça fait. Non, 7 minutes. Celle de 7 minutes, c'est la bombe. Voilà. Et donc, et là, c'est pareil, des séquences comme ça. Tu vaut raison. Mieux, ça.
Je te dis, Jean-Marc, tu as utilisé
Apocalypse,
oui, parce que ça c'est un quart de
minimum quand même. C'est pour ceux qui sont pressés de savoir. Bon, j'écoute 7 minutes, boum, ça y est, c'est fini.
Non, Marie.
Moi, ça me donne cette impression, 7 minutes.
Non.
Quand t'as faim, 7 minutes, ça suffit pas.
Non, mais tu as 7 minutes, ça te donne envie d'aller plus loin.
Ouais,
tu peux écouter.
Ah bah oui, c'est ça, une petite histoire, pas petite histoire.
Oui, voilà. Tu vas plus loin après.
Tu vas faire des chroniques.
Tu vas plus loin après.
Non, c'est que 7-10 minutes, tu as le temps de voir.
Parce que tu peux pas... voilà,
heure, il faut t'asseoir et...
On est tellement sollicité sur Internet. Attends, tu peux pas, on peut pas... Tellement...
Flash responsabilité 1.
Oui, justement.
Flash responsabilité 2.
Le flash responsabilité 3.
On peut parler des attaques du démon.
Ah bah oui, flash responsabilité. Mais tu relis tout ça toujours.
Ça fait plusieurs
à la signification sponsale du corps. Il faut que tu relis toujours à la signification sponsale du corps.
Ah oui. Non, il faut dire vraiment la parole de la.
Oui, comme ça Géraldine pourra faire pareil avec sa moitié sponsale après.
Parce que si on fait un thème sur la sponsalité sur le forum, si tu veux, c'est vrai.
Comme ça, Olivier, il va apparaître avec sa moitié sponsale.
La sponsalité, c'est pas
évident. D'un seul coup, on va faire sponsale.
Et tout le monde a besoin d'entendre quelque chose sur la sponsalité. Hein,
au-delà de l'unité des deux.
Ah bah oui, si
dire que la sponsalité est un sacrement qui est aussi important que l'Eucharistie.
Dans le remède, c'est ce qui se passe. Et dans le sot.
Personne
non, mais le sur Ginès, ça s'est un peu disloqué, mais normalement, c'est ça.
Ah non, mais carrément une croix, hein.
Oui, son témoignage.
Ah non, mais c'était très beau.
Bah oui, bah oui.
Non, mais tu peux le faire par anticipation.
Et je fais. Forum, il commencera à dire. C'est un fruit d'un week-end.
Non, mais pour se cacher, tu n'es pas obligé
de mettre ton visage.
Non,
mais si on fait une vidéo, tu peux pas parler là.
Ça avec la fille.
Après coup de téléphone, Jean-Marc.
Très bien, faire la célébrer la
corde. Non, c'est pas
le
sens.
Ça peut être
Des images de la ville.
Ah oui.
Et on t'entend.
Mais non, mais je parle pas.
Voilà, et puis il peut y avoir des textes qui sont proposés, qui illustrent ce que tu es en train de dire.
Tu risques de perdre la grâce.
Ça peut être, c'est pas obligé de voir ton visage.
Je sais pas. Non.
Qui compte, c'est le message.
J'ai quand même plein de copains qui ont fait la foire avec moi.
Il y en a qui peuvent rigoler, c'est pas le problème.
Ah bah oui, après. Bonjour monsieur, tous mes copains, c'est bonjour monsieur le curé.
Non, pour toi t'as pas de problème. Sacrement, t'as pas de sacrement. Moi je te l'ai déjà dit, le père Maïssel Blanco, il te l'a dit. Et elle-même, elle te l'a dit, je veux dire,
Et si tu as retrouvé à
spécialiser ton mariage, je te le dis, il n'y a pas la matière.
À refaire ce qu'il a fait, à retrouver sa grâce toute puissance du sacrement du mariage. C'est une grâce toute puissante.
Mais je veux dire, gosse, il y a 10 ans,
c'est montré la puissance du sacrement du mariage. Vous
voyez, c'est encore marqué.
C'est très bien, c'est ce que je veux dire.
Avec la personne
qui ne peut
toujours pas avoir un jour rencontré, et avec laquelle il est lié dès maintenant, dans le sacrement du mariage, qui est grand.
J'ai du mal. Ben voilà. Oui, témoignage, c'est dire le chapitre ensemble.
Non, pas un chapitre. Déjà aussi,
une dizaine. Ouais, mais il faut commencer par là où on peut commencer. Hein, bon, voilà.
Pas tout de suite après la messe, mais presque.
Ah, mais j'arrive pas à prier.
Oui, forcément, Marie-Christine. Et c'est là où on voit, vous voyez, en plus, quelqu'un qui n'est pas du tout au même niveau spirituel, mon mari, ma femme, mais pas du tout au même niveau spirituel que moi. C'est un témoignage, là. Et bien, on dit quand même une dizaine de chapelets dans le lit, quoi.
C'est ce que je dis. Dis, je vous salue. J'ai réussi à le servir.
Dis, je vous salue ensemble. Bon.
Ça, c'est fort. Hein. Marie-Christine, elle dit.
Oh, maintenant, j'en ai marre. Bon.
Moi aussi, je fais les services de mon mari. J'ai envie de leur dire.
Mais non, mais tu trouves. Il s'agit de trouver.
Bah oui, bien sûr. Tu vas voir, tu vas voir.
Je mets que les conditions. Non, je mets pas de conditions.
C'est le sacrement du mariage qui fait ce qui...
Le sacrement du mariage, on a eu une cérémonie du mariage.
Et, ben, et alors? Alors tiens, sacrement œcuménique du mariage. Ça aussi, c'est un témoignage intéressant.
Alors, si vous ne savez pas comment faire, vous chantez un refrain, vous le fredonnez comme ça. Vous faites pendant une demi-heure. Hein. Je ne sais pas comment faire avec ma femme, toi, Olivier, vous ne savez pas comment faire avec moi, tu es responsable. Moi, je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais fait de transactuation surnaturelle responsable du sacrement de mariage. Je ne sais pas comment on fait pour rentrer dans l'au-delà de l'unité des deux et faire la transactuation surnaturelle responsable. J'y comprends rien, je ne sais pas comment on fait. Moi, je connais que les structures mathématiques. Mais il y a une structure mathématique fondamentale, c'est la structure sponsale. C'est 3 en 1, non 3, dans le dépassement de l'unité des deux.
C'était pas mal.
Ah oui, c'était pas mal.
Ça, c'est une super structure. Elle est en 4D, celle-là. Voilà, et ben oui. Alors, on fait une demi-heure. Géraldine, vous comprenez bien, Géraldine, vous entendez bien.
Oui, oui, j'entends.
Unité sponsale, surnaturelle, transactuation, divine éternelle. Et si c'est moi, Géraldine, elle fait... Unité sponsale, surnaturelle, transactuation, divine avec elle. Et toi, divine éternelle, unité sponsale, surnaturel, transactuation, divine éternelle. Là, il y a quelque chose qui se réveille et qui illumine de l'intérieur les parties minuscules de la signification sponsale de votre masculin et féminin.
Vos maris, vos maris.
Et vous le faites pendant une demi-heure, ça. Une demi-heure. Vous avez au moins une demi-heure. Vous avez, parce qu'en une demi-heure, vous avez environ 30 millions de cellules qui se sont formées. Donc, unité sponsale, surnaturelle, transactuation, divine avec elle. Unité sponsale, surnaturelle. Une demi-heure, c'est pas ça, c'est simple. Hein. Surnaturelle, donc on faisait des marches.
Vous lui demandez aussi qui chante.
On faisait des marches, alors. Moi, on faisait tous les maris et on faisait des marches. Tous les maris, on leur faisait chanter ça. Allez, pendant une demi-heure, on chante ça. Quand ils rentraient à la maison,
ils avaient leur encore le refrain dans leur
était, non, eux, ils disaient rien. Et leur femme dit, je sais pas ce qui m'est arrivé. Je suis brûlante d'amour, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Alors qu'elle n'avait jamais fait une déclaration d'amour depuis le début du mariage.
Ah oui. Une unité sponsale.
Unité sponsale. Surnaturelle. Transactuation.
C'est pas transsubstantiation. C'est un sacrement. Hein. C'est pas transsubstantiation. Donc c'est un sacrement, donc c'est transactuation.
Divine éternelle. Unité sponsale. Et quand on fait ça, l'effort, c'est qu'on rentre dans une espèce de.
Ouais. Même si on le dit mentalement.
C'est une marmonne en chantant.
Tu fredonnes.
De toute façon, quand il ne comprendra pas ce que tu dis, il peut le dire en parlant.
C'est ce que tu fais avec ton corps. L'intérieur de ton corps, tu fais que l'intérieur de ton corps fredonne ça à l'intérieur du cœur de ta moitié sponsale. À ce moment-là, au bout d'un certain temps, il y a quelque chose qui dépasse le plafond sourd et descend. La troisième, la fameuse unité sponsale descend vers vous. Cette réalité créée par Dieu, et là, tu peux célébrer le sacrement. La transactuation. Ça, c'est quelque chose. Si vous ne savez pas comment on fait, comment on vit sacramentellement du sacrement de la sponsalité, vous avez un document très intéressant qui s'appelle Sponsalité 2016, qui donne les 9 étapes autour du cadran pour rentrer dans l'accomplissement de la messe sponsale. Voilà, donc la transactuation surnaturelle. C'est très facile à faire. C'est très simple, puisque c'est quelque chose qui relève au front, hein, d'accord, de la lumière et puis du feu. Quoi. C'est un mélange de feu et de lumière dans la liberté du troisième. Et le troisième, c'est l'au-delà de l'unité des deux. Est-ce que c'est simple? Est-ce que c'est facile à comprendre? Là, vous y êtes, là?
C'est cool.
De savoir que vous pouvez célébrer la messe, ça, c'est pour quand?
On peut le faire avant d'avoir reçu le sacrement de mariage?
Vous pouvez le faire avant d'avoir reçu le sacrement de mariage, bien sûr. Puisque vous le faites, le sacrement de mariage, il est indépendant du temps, quelque part. Lorsque tu es créé par Dieu, tu dis oui. Quand tu es créé par Dieu, même à ta conception,
pour la fin.
Oui, on a dit oui à tout ça.
T'as dit oui à la signification responsable de toute ta vie sur la Terre, jusque dans l'arbre de vie. Oui. Donc tu peux très bien reprendre dans, à partir de la memoria dei, dans le corps spirituel primordial, la signification responsable de ton oui. Et là, tu peux célébrer la messe responsable.
On peut faire ça aussi vis-à-vis de ses enfants, qui ne vont que la messe.
Mais avec, vous n'êtes pas mariés sacramentellement avec vos enfants.
Non,
vous n'êtes pas mariés sacramentellement. Les enfants, ce n'est pas un sacrement. Vous mettez une biche et vous mettez... Non, c'est pas un fruit, c'est même pas un fruit. C'est un fruit naturel. Mais par contre, quand vous produisez dans l'intérieur de l'âme de votre enfant la lumière naturelle de la foi, vous avez quelque chose qui peut venir de la messe responsable si vous appliquez votre attention. Mais c'est tout. L'enfant, c'est naturel, c'est pas surnaturel.
Et vous, dans la formule, c'est transactuation divine avec lui.
Avec elle. Non, vous dites éternel parce qu'il est représentant de l'éternité, d'où vous êtes sorti comme épouse.
D'accord, et quand vous dites avec elle, c'est.
Eh ben c'est lui qui dit avec elle.
Donc moi, je dis avec lui.
Non, toi, tu dis éternel.
Éternel. D'accord.
Alors voilà. Bon, est-ce que vous avez des questions à poser? Bon, mais ce que je ne peux pas
poser. C'est moi qui dis ça, et avec elle, c'est mon mari qui le dit.
Et l'homme peut le dire éternel aussi, et avec elle.
Je peux alterner, parce qu'en fait, c'est l'au-delà de l'unité des deux. Donc
c'est quoi l'éternel?
Il y a toutes les noces de l'agneau qui sont derrière.
Et là, l'éternel, ça représente...
Mais l'homme, c'est Dieu qui fait sortir de l'homme l'épousé. Il sort l'épousé de l'homme. L'Immaculée Conception, aussitôt que l'Immaculée Conception est sortie de la grâce sponsale d'Adam, de Joseph. Pourquoi pas l'oublier, donc. C'est pour ça qu'une sponsale, transactation divine éternelle, quelque chose d'éternel, dans l'intention créatrice de la sponsalité, dans l'au-delà de l'unité des deux, et ça fait l'Immaculée Conception. L'Immaculée Conception dit où est-ce qu'elle est, en tant qu'émanant de la signification sponsale du corps éternel. C'est pour ça qu'il y a quelque chose quand même de... Non, unité sponsale, surnaturelle, transaction divine avec elle. Surnaturel, transactuation, divine éternelle. Ah, je vous assure, là, une demi-heure, vous allez voir. Vous allez voir le retour à la maison. Vous dites rien, surtout. Hein. Juste vous toucher, c'est tout.
Moi, je vais le faire.
Juste vous toucher. Juste vous toucher, c'est tout, là. Oh, salut.
Tu viendras. Tu peux la mettre, en plus, la mettre sur l'épaule. On prie pour son mari.
C'est virginal, il se passe quelque chose de virginal à ce moment-là. Hein?
Bah, c'est encore mieux.
Hein, il se passe vraiment quelque chose de virginal. Mais de virginal dans la différenciation d'homme et d'homme.
Il dort.
Mais c'est vraiment une communion des personnes. Tu peux, la virginité de l'amour apparaît et transforme le corps. Hein, on peut dire ça. Hein. Première caractéristique de la signification sponsale du corps masculin et féminin, c'est la virginité de l'amour. C'est un amour virginal, il est parfaitement pur. Il n'y a aucune trace des séquelles du péché originel dans l'au-delà de l'unité. Dans la femme, il y a des séquelles du péché originel. Dans l'homme, il y a des séquelles du péché originel. Mais dans la transactation surnaturelle, quand tu es dans le nid, de l'au-delà de l'unité des deux, tu opères la transactation, là, dans le nid, qui est l'au-delà de l'unité des deux, là, si c'est ça qui détermine, illumine et vivifie ton corps, il n'y a aucune trace de séquelles du péché originel. C'est l'indulgence plénière continuelle. C'est quand même intéressant, parce que le mariage n'est pas intéressant, parce qu'il y a les séquelles du péché originel, qui nous reviennent toujours au grand galop, au moment aussi important. Mais dans l'au-delà de l'unité des deux, il n'y a aucune séquelle de péché originel. Parce que Adam et Ève ont fait le péché originel, mais l'au-delà, c'est les deux. Troisième bara d'Elohim dans la signification responsable du corps, l'humanité intégrale, n'a pas fait le péché originel. Et donc il n'y a aucune séquelle de péché originel dans l'au-delà, l'unité des deux, dans le troisième bara de l'unité responsable. Bon, nous vous engageons à lire l'enseignement du Saint-Père sur cette question qui a été grégarisée, enfin vulgarisée. Très fortement vulgarisé, dans un petit document, non pas de 10 000 pages comme les documents du Saint-Père, mais en juste 153 pages, qui s'appelle 2000, responsabilité 2007.
153 pages, c'est un document
très intéressant. Voilà,
faut pas trop se décourager quand même.
Mais c'est la première chose que nous apprend le Père Patrice.
Ah oui, c'est sûr. Oui,
dans vos cours, c'est le premier.
Oh non, ça dépend.
Non, mais c'est là, on avait beaucoup travaillé.
Oui.
Ah non, la responsabilité, on a fait travailler. Ouais.
Le combat étant spirituel étant pour la famille. Donc c'est quand même très important de rentrer dans ce qui peut effectivement renforcer la famille. Et si moi-même, dans ma famille, c'est que c'est encore plus difficile. C'est pour moi. C'est évident. Donc, mais dans la mesure où je vais demander à Jésus de le faire, il va le faire. Donc, et à travers moi, ça va être, on appelle le son, répand sur toutes les familles qui sont en difficulté. Et il y en a. Donc c'est un point important de travailler sur cette question. Et on ne peut pas dire autrement, les enfants, nos enfants, grandissent dans ce qu'ils sont parce qu'ils voient l'unité de leurs parents. Et ça, unité reconstituée, une unité qui repart, etc. Et donc ça, les enfants, nos enfants, si vous voulez, on s'inquiète de nos enfants, et bien inquiétons-nous déjà de notre unité. Parce que nous sommes les parents. Après, ça viendra pour les enfants. Ils portent en eux ils nous ont dans la peau, nous les avons dans la peau, ils nous ont dans la peau, quand même, rien à faire. Donc si on rentre dans le corps spirituel, forcément, ça émane plus facilement dans le corps spirituel de nos enfants, c'est évident. C'est des choses simples en fait. Hein. Moi j'ai dit simplement, lire les trucs du Père Patrick, ses enseignements, 20, 25 vidéos de 1 heure, etc. C'est 153 pages de responsabilité. Quand on vient ici, c'est facile, mais quand on n'a pas vu, je suis désolé, ça passe pas. Hein, voilà, c'est difficile. Donc, c'est des choses simples, comme ce qu'on vient de dire là, je trouve.
Il faut pratiquer.
Sauf quelques exceptions. Il faut pratiquer.
Et à force de pratiquer,
sauf quelques exceptions, comme Olivier.
Sauf quelques rares exceptions.
Sans engranger tout. Ouais. Ouais. Sauf même Jean, le petit Jean qui vient là, ici.
J'ai
tout engrangé, tout engrangé.
Ah Jean, il a plongé dedans.
Ah, vous aussi, vous m'avez dit ça.
En peu de temps, oui. Ouais.
Toi aussi. Non, mais,
je ne dis pas.
Joseph, il m'a connu comme ça, il a engrangé tout.
Je ne dis pas, mais il faut ouvrir une porte. Voilà, la porte, ce n'est pas forcément le gros bouquin. Voilà.
Je n'avais jamais vu. C'est pas lié à la personne. C'est là qu'on voit que ce n'est pas lié à la personne. La vérité est nourrie. La vérité est une nourriture.
Bon.
Écoutez, c'est bien. On est content et on est content de vous accueillir ici.
Alors, ce que je peux vous dire, c'est de faire un jour un pèlerinage avec le Père. C'est très important.
Ah bah oui.
Vous verrez, c'est merveilleux.
Pourquoi ?
Garabanda, Fatima,
Eiffel,
Erosbar. Non, mais c'est vrai, on devrait faire ça. Avec les. On devrait faire des adeptes de votre truc.
Oui, ah bah. Oui.
Ce que vous dites, il y a du monde.
Des nouveaux.
Même pas.
Le forum de la paix, c'est à la périphérie, oui, on est à la périphérie.
Mais moi,
on est d'accord.
Oui, oui, mais c'est juste que ce soit accessible.
Il faut arriver à ce que ce soit accessible.
Enfin, non, c'est pas ce que je veux dire. C'est que, en fait, tout le monde peut venir. Il suffit de, par exemple, poser une question sur Google. Et souvent, c'est le forum qui arrive dans les premières réponses.
Ah oui, sur Google, oui, on tombe sur le peuple de la paix.
Tu connais l'histoire de Garabandal aussi?
D'accord.
Ça tombe. Un jour, on va Garabandal, voilà, et il y a des choses. Et il me dit, oh ben là, la maison, on va aller tout en haut. Il y a une première croix, il y a une deuxième croix. Je vais célébrer la messe. Jusqu'ici, alors on amène des trucs de la messe, machin. Et c'était un plateau, mais tout en haut de la montagne, hein, un plateau, et un carré, un grand rectangle, comme ça, en plein milieu de la montagne. Et pendant la messe, tout d'un coup, on voit un brouillard monstre qui descend de la montagne, tout en haut de la montagne. Mais un brouillard, on voyait pas encore. Le brouillard descend comme ça dans la vallée, enfin, tout ça. Et juste notre plateau, ah, c'est extraordinaire. Le nuage fait un mur tout autour du rectangle, tout d'un toit ouvert. Soleil. Ça faisait comme une église.
C'était un dôme comme ça.
Ah oui, oui.
Et alors, on aurait touché là.
Et après, la messe se termine, donc il fallait redescendre en bas, et le brouillard nous faisait un chemin.
Ah oui,
ben, le brouillard faisait comme ça, un chemin, et nous on pouvait aller jusqu'en bas et tout. Mais sinon, personne ne voyait rien.
Alors, le curé qui vous avait interdit de leur aller, il ne voyait pas que vous étiez le curé qui l'avait interdit de le faire, il ne pouvait pas vous voir.
On avait une image là.
Ça me fait penser au petit berger de... Au début, quand la Sainte Vierge, ils allaient mire, puis elle a essayé de leur enseigner un petit peu la vie de Jésus, puisque c'était sous Tito Vigilis. Et puis les soldats, elle a dit, bah, si ils vous empêchent d'aller en haut, bah, c'est pas grave, moi je vais aller en bas, c'est-à-dire là où il y a les croix bleues maintenant. Et donc les enfants chantaient, la Sainte Vierge les enseignait, et bien elle et les soldats, enfin de l'armée, n'entendaient rien. C'est-à-dire la Sainte Vierge leur avait bouché les oreilles. Pourtant, ils chantaient fort, ils priaient. Ça fait penser à ton mur de nuages, là, tout ça. Voilà. C'est extraordinaire.
Qui n'a rien à voir avec la responsabilité, c'est dans le cas donc d'une personne qui n'a pas la foi, en fait, nos âmes ont besoin d'être nourries. Mais alors, quand les personnes n'ont pas la foi, l'âme comment elle se nourrit si elle n'a pas la nourriture spirituelle, elle n'a rien à quoi se raccrocher parce que la personne... est complètement en dehors de ça, ou ne veut pas entendre.
Surtout si elle n'y croit pas, si elle ne croit pas en plus.
Si elle ne croit pas, oui.
C'est un refus, hein, c'est un refus de Dieu, ça.
Et à ce moment-là, l'âme, elle se retrouve.
Dire je ne crois pas.
C'est un refus. C'est un homme juste ou pas, parce qu'il y a des gens qui font partie de l'église invisible, ils croient que si. Enfin, je ne sais pas, mon père, c'est ça. Il y a des gens qui pensent ne pas croire, mais ils font la volonté un peu aussi de.
Oui, non, mais il y a certaines personnes qu'on aime, qui nous sont proches, on vit avec elles. La lumière sénate, la voix se présente à l'intérieur d'elle, et ça leur fait peur. Et ils disent, je ne peux pas rester avec ça. Je ne peux pas rester avec ça. C'est pas que la lumière ne vient pas sur elle, les envahit pas, mais ils disent non. Il y a une liberté quand même, dans l'accueil du temps. Ça implique beaucoup quand même, de recevoir Dieu. Ça peut faire peur.
ceux qui sont attachés à leur la terre, à leur terre. Les habitants de la terre, ceux qui habitent la terre, c'est ce qui est terrestre. Là, ça, c'est ça, ça, ils y tiennent à défendre ce morceau-là. Ça, pour cela, il vaut mieux rester à la périphérie de la religion. À l'intérieur de la religion, mais périphériquement, c'est mieux. On risque de perdre quelque chose. Ça fait peur, quelquefois. Moi, pour rentrer dans un ermitage, je peux te dire, je suis allé à reculons. Hein.
L'âme n'a pas de nourriture.
Les gens, ils me disent quelquefois, tu sais, ils me disent « Ah oui, vous avez choisi d'être ermite. » Toi, tu n'as rien compris du tout. Tu n'as rien compris. Tu as choisi d'être ermite. Tu n'as rien choisi du tout. Tu te fais... Tu sais, ah, mais tu te fais quand même. C'est pas possible. Voilà. Il y a une espèce d'obéissance de là. La foi implique un acte héroïque d'obéissance. Héroïque. Et tout le monde ne peut pas. Alors, toute la question, c'est de savoir, soit, ou bien alors, ils n'ont jamais eu la chance d'avoir cette espèce, cette irruption lumineuse de la lumière surnaturelle de la foi dans leur... dans toute leur... Voilà, il y a quelque chose qui... Voilà, il y a un moment, y a... la pâte prend, quoi, c'est vrai. Ça arrive, ça. Alors, si c'est ça, t'as mille situations différentes, tu comprends une question comme ça. Mais si c'est quelqu'un qui n'a jamais, jamais, pour lui, Dieu n'existe pas, c'est pas la même chose que quelqu'un qui dit, je sais bien que Dieu existe, mais ça me fait peur, enfin, je veux dire, ça il prendra trop de ma volonté, quoi, personnelle. Il prendra trop. Il me demandera de pardonner, par exemple. Je sais qu'il me demandera de pardonner. Mais ça, je peux pas. Alors, il y a un recul. C'est pas la même chose, tu comprends, que celui qui n'a jamais été envahi par la lumière surnaturelle de la foi. Mais moi, tu penses par exemple, quand tu poses la question, tu penses à quelqu'un, tu penses à ton mari, tu penses à ton enfant, tu penses je sais pas quoi, moi, à ta belle-sœur, je sais pas, comment je veux dire, à ton beau. Bon. Tu penses à ton père, c'est possible que ton papa est complètement hermétique. Alors il faut savoir une chose, c'est que nous avons quand même, à raison de notre baptême et de notre confirmation, une très grande précision, ça. On a un pouvoir. La confirmation, c'est vrai que la confirmation, le sacrement de confirmation, donne à ce pouvoir un caractère spectaculaire. C'est que tu peux très bien rentrer invisiblement, tu vois, silencieusement, dans le cœur de quelqu'un d'autre que toi. C'est un goïm, quoi. Sans Dieu. Il y a des idoles. Et tu peux, en présence, donc, en te mettant dans son cœur, en habitant à l'intérieur de son cœur, en allant se nourrir de l'amour qu'il a sans le savoir à l'intérieur de son cœur, tu peux te nourrir de l'amour qu'il a dans son cœur pour l'aimer. Et si tu arrives à faire un acte d'amour avec lui, et une fois que tu es établi comme ça à l'intérieur de cet acte d'amour avec lui, à l'intérieur de son cœur, alors à ce moment-là, tu peux prier avec très grande ferveur pour faire à sa place ce qu'il ne fait pas. Et tu fais avec ferveur. Tu n'as pas besoin de le faire pendant une demi-heure, pour le coup. Si tu le fais pendant une demi-heure, il se passera sûrement quelque chose. Si tu le fais pendant 10 minutes et que ça ne s'arrête pas, c'est sûr qu'il va y avoir une mission invisible d'une personne divine dans l'âme de cette personne-là. Si tu le fais chaque jour, ne serait-ce que 15 à 20 secondes, il recevra une inspiration qui vient de Jésus, et c'est une participation de la vie divine de Jésus qui sera à l'intérieur de lui sans qu'il le sache explicitement. Si tu fais ça tous les jours, si tu fais ça tous les jours, cette personne-là aura la foi implicite, surnaturelle, chrétienne. Donc, si quelqu'un qu'on connaît et qu'on aime n'a pas la foi, ça veut dire que quelque part on n'a pas fait notre boulot. On ne peut pas obtenir que quelqu'un puisse brûler son cœur de charité surnaturelle chrétienne. On ne peut pas obtenir de quelqu'un que cela donne sa vie et se consacre à Dieu dans un sacrement. On ne peut pas obtenir, non ça on ne peut pas l'obtenir, ce n'est pas en notre pouvoir. Mais par contre, faire en sorte que quelqu'un qu'on aime, son enfant par exemple, puisse garder la foi, avoir à l'intérieur de son âme une expérience quotidienne où son âme se nourrit de la lumière surnaturelle de la foi. C'est extraordinaire la lumière surnaturelle de la foi lorsqu'elle apparaît, une apparition. Elle ne dure qu'une seconde ou deux. Il n'y a plus que Jésus, il n'y a plus que Dieu. Mais tu ne sais pas mettre un mot dessus. Tu as une inspiration, tu dis oui c'est vrai, il faut que je pardonne, c'est vrai. Le gars, il dit, voilà, il faut que je pardonne. Il ne sait pas que ça vient de la lumière surnaturelle de la foi. Ça crée en lui une remontée à la surface. Mais il croit qu'il obéit à quelque chose qui vient de lui. En fait, c'est quelque chose qui vient de la lumière surnaturelle de la foi. S'il obéit chaque jour, si chaque jour il a l'occasion d'obéir à quelque chose qui apparaît à l'intérieur de son âme en raison de la lumière surnaturelle de la foi, qui est une grâce actuelle qu'il a reçue parce qu'un frère à prier pour lui dans la communion des personnes, à installer dans l'amour de son cœur, et bien à ce moment-là, il gardera, s'il y obéit, par exemple, il faut que tu pardonnes, ben là, il faut que tu donnes quoi, à ce type-là en souriant, quoi. C'est vrai, il faut que tu te rends disponible, là, ici, là, tu te rends disponible, là, là, et tu le fais content, quoi. Voilà, tu fais quelque chose d'humiliant, mais content d'avoir fait. Voilà, tu vas faire preuve d'un bon sens incroyable. Voilà, tu vas oser dire à quelqu'un là ce que vous avez fait, ça, vous savez. Ne continuez pas à faire comme ça, c'est mal. Vous allez tomber la tête contre un mur. Prévenir un pécheur. Il est inspiré de faire ça pour être juste quoi, avec les gens. Ces inspirations viennent d'une grâce actuelle. La grâce actuelle, c'est une grâce sanctifiante, c'est une grâce de sainteté qui envahit votre âme, mais qui est transitoire. Elle dure pour autant qu'il y a la ferveur de celui qui a prié pour vous l'obtenir. Et il y a des gens qui font des actes admirables de sainteté chrétienne de vie uniquement avec des grâces actuelles parce qu'il y a des gens qui prient pour eux. Mais si quelqu'un, à chaque fois que ça lui arrive, il y obéit, et à celui qui, à chaque fois que ça lui arrive, il n'y obéit pas forcément, c'est ça qui fait la différence, d'accord? Mais ce qui va faire la différence, et de sorte que lorsque l'occasion lui sera donnée d'être dans un état de grâce habituelle, et non pas transitoire, non pas de grâce actuelle, mais de grâce habituelle, de grâce sanctifiante, il s'y plongera merveilleusement, immédiatement, sans hésiter. Parce que ce sera son heure du baptême du feu, du Saint-Esprit. Voilà. Mais tout ça, mais ça, c'est pas toi qui peux le produire. Par contre, ce que tu peux produire, c'est les conditions. C'est le fait qu'il y ait cette lumière sénateur de la foi qui fait qu'il n'y a plus que Jésus. Et donc, qui anime et vivifie toute son âme, et voilà, il est porté à faire quelque chose qu'il n'aurait pas fait sans cette grâce chrétienne surnaturelle. Ça va? Vous comprenez ça? Ça, vous pouvez l'obtenir pour quelqu'un. Vous avez autorité pour ça. Votre enfant, de cette manière-là, si c'est votre enfant et il est rétif, il est ci, il est là. Si votre enfant est rétif, il est ci, il est là, peut-être tous les jours, nommément, hein, il gardera la foi surnaturelle, chrétienne. Or, c'est très important parce que c'est la foi qui justifie. La foi qui nous rend juste devant Dieu, surtout bien sûr que petit à petit, bien sûr, il va s'habituer à vivre de ça, les choses lui paraissent claires, évidentes, qu'il faut qu'il obéisse à la voix de sa conscience, qui en fait est une impulsion de la grâce du fruit des sacrements, du baptême et de la confirmation de celui qui a obtenu cette grâce-là pour lui, c'est tout. Donc il est donc potentiellement.
potentiellement en état de grâce sanctifiante sans le savoir. Et même peut-être en état de grâce sanctifiante tout court. Ça, c'est l'épître aux Corinthiens, ça. Qui explique ça. L'homme et la femme seront sauvés à cause des enfants qu'ils mettent au monde si leurs enfants gardent la foi. Ça montre bien que c'est relève pas de l'autorité de l'enfant, mais ça relève de l'autorité des parents que l'enfant garde la foi. Et que si et cette foi, elle peut être ou explicite ou implicite. Hein. Mais elle est surnaturelle et elle est chrétienne. Au jour du jugement, il est irrigué par la lumière surnaturelle de la foi. Et il s'en rend compte. Il rencontre un témoin. Il rencontre le Saint-Père. Il rencontre, je ne sais pas moi, il y a une apparition de la Vierge, le plafond s'efface et la nuit descend dans sa chambre. Et là, bon voilà, ça devient explicite. Sa foi implicite va devenir explicite. Après, c'est à lui de savoir s'il va nourrir sa foi dans les sacrements, la charité, la conversion. La plupart du temps, ce sera oui. Parce que ce sera son œuvre. Mais c'est pas la même chose, celui qui est confronté à ce témoignage du Saint-Esprit à l'intérieur de lui, il est bouleversé, il sait, et puis il recule, il dit non. C'est pour ça que j'ai été impressionné par le témoignage de Philippe Séguin, quand il est mort, vous savez. Philippe Séguin, vous voyez qui c'est Philippe Séguin, celui qui a quoi l'équipe des sept qui ont bousillé la France. Non, on n'est pas au courant. Et quand il est mort, bon bah, qu'est-ce que tu veux, c'est terrible.
La référence des épîtres aux Corinthiens, c'est, tu la connais, tu peux la dire, tu t'en rappelles.
Tu fais Google, tu fais l'homme
oui.
Et la femme seront sauvés à cause des enfants qu'ils ont mis au monde, s'ils conservent la foi. Tu fais Google, moi je ne me rappelle pas les références exactes. Mais... c'est l'avantage de Google, c'est qu'on peut pas supporter. T'as plus besoin de faire l'ordinateur dans ton cerveau. Oui, c'est 15, verset 12. Philippe Séguin, oui, Philippe Séguin, il meurt. Et il a témoigné au moment de son enterrement que... Enfin, il a témoigné... Bon, et ça a été le témoignage de... Son témoignage après la mort, il a dit ce qui lui est arrivé. Ça a quand même été recueilli par quelqu'un, ça a été authentifié par le père que vous connaissez tous, là, du mouvement sacerdotal Maria.
Ah, Dongobi.
Non, on a un français. Là. Bon, ça fait rien, c'est pas grave. Au cas de... Et donc, peu importe. C'était,
sûrement pas lui, je pense.
C'est un témoignage. Moi, je le reçois assez... Même si c'est pas vrai, ça fait rien. Ah, oui, à titre de parabole, déjà, si c'était qu'une parabole, il est sorti, à la troisième fois qu'il a dit, il a parlé, et il a dit, mon Dieu, que je suis... Je me déteste moi-même. Qu'est-ce que je suis laid, qu'est-ce que je suis... J'ai tout fait, j'ai tout bousillé.
Le père Marin.
Hein?
C'est pas le père Marin.
Non, c'est pas le père Flick. Non. C'est pas le père Flick, ça va me revenir.
C'était
responsable du mouvement sacerdotal Maria.
Il est mort maintenant.
Il est mort il y a 3 ans.
Ouais. Je l'ai vu.
Il y a 2 ans. Ouais. Et bon. Et puis, donc, juste ça. À un moment donné, il a dit voilà, ben, je quitte. Tous ces gens m'honorent, me glorifient alors que j'ai tout bousillé, s'ils savaient ce que j'avais fait. Il me vomirait jusqu'à la fin du monde. Et il a dit, je suis passé, j'ai quitté ici le cercueil, avant même qu'on me mette dans la terre, et puis j'étais plus loin, je ne supportais pas ces gens qui disaient des choses fausses sur moi, m'honoraient, tout ça. Et alors la lumière de Dieu est arrivée là. Il était beau.
qu'il était beau. D'une splendeur. J'ai regardé. Et j'ai dit non. Et je suis parti. Ça, ça existe sur la terre, et ça existe après la mort. On est libre, vous savez. Quelle horreur. C'est quand même, pourtant, c'est un brave type, hein. On le voit, le gros bonhomme, sympa. Enfin, ouais, ouais. Bonhomme, quoi, bon.
Oui, il a bien sympa. Oui. Oui, c'est vrai, c'est vrai, il a bien sympa.
Ah, c'est sûr, parce que...
Bon, par contre, c'était un bon gourmand, il était...
Non, mais c'est tous les orgies qu'il faisait, les sacrifices, tu comprends, dans les loges, là, hein?
Ah oui, oui.
Tu permets, hein?
Parce qu'il était franc-maçon?
Oh, ben oui.
Ah, ouais. Oh, ben non, je cherchais pas mes enfants.
Non, mais tu peux très bien... Alors, je reviens à un truc aussi, je crois que ça doit être... C'est quelque chose que je trouve que c'est bien, un truc tout simple que je vais vous dire là maintenant. Le fait que le Saint-Père, Jean-Paul II, ait dit « L'âme spirituelle créée par Dieu dans le premier génome, dès qu'apparaît le premier génome, dans le tout à fait début du processus embryonnaire », c'est très important de comprendre ça, parce que l'âme spirituelle, c'est une intériorité. C'est quoi une âme? C'est une intériorité. C'est une vie intérieure, c'est ça l'âme. Elle est remplie de lumière, mon âme est remplie de lumière. Elle est une intériorité lucide, elle sait ce qu'elle... Elle a une intériorité, elle se voit dans son intériorité. Elle est capable de lumière. Et elle est capable, dans la lumière, de voir que Dieu l'a créé, est en train de la créer, est en train de le créer, et l'illumine. Dans tous ses 19 premiers jours, d'ailleurs, le Verbe de Dieu illumine les 19 premiers jours. L'intériorité de l'âme, elle sait que c'est le Verbe de Dieu. Elle sait qu'elle sort des mains du Père. Elle sait qu'elle est entre le Père et le Fils, qu'elle est un engendré dans le temps, l'éternel de Dieu, et dans le temps de son oui. Elle dit oui, elle le voit, elle l'aime, elle reçoit, de manière passive, c'est vrai, mais elle recueille, dans une disponibilité, elle s'établit librement dans les mouvements contraires. C'est ça le péché originel. Elle s'établit librement par rapport aux mouvements contraires. Elle vit, pourtant le cœur n'est pas encore formé. Le cœur va se former quoi, dans 3 semaines? Papa. Le premier organe, le cerveau va se former dans la 8e semaine. Commencez. Cuticule des racines. Un truc un peu grossièrement élémentaire. Ça, je trouve ça drôlement extraordinairement important. Je n'ai pas besoin du cerveau pour faire un acte d'intelligence. Ah, ben ça, j'y avais pas pensé. Pas pensé à ça. Et j'ai pas besoin du cœur, si je puis dire, pour recevoir l'amour de quelqu'un d'autre dans lequel je m'inscris pour, librement pour me nourrir de l'amour qu'il a. C'est très très fort ça pour le mystère de la visitation. Jésus va se nourrir de l'amour qui est dans le cœur de nos mignons, c'est Jean-Baptiste, pour qu'il y ait le début de conception du Sacré-Cœur de Jésus. Quelqu'un d'autre que lui. Eh bien ça, ce que je vous dis là, ça a une très grande importance par rapport à la mort aussi. Parce qu'à la mort, vous voyez les gens, vous voyez les mêmes d'ailleurs, les médecins, toujours pareil, les ouvriers de la mort. Je ne dis plus un médecin, viens, vous êtes un ouvrier de la mort. Enchanté, moi je suis moine. C'est quand je vois un flic, je dis « Ah, enchanté, vous êtes un gardien de la paix. » Je dis « Moi aussi. » Circulez. Circulez. Je suis qu'avec mon grand-père. Ah, oh, non, tunnel. Donc, arrivé à la mort, c'est quand la mort, hein? Mais c'est pas quand le cœur s'arrête de battre. Je me rappelle, j'allais voir le père Emmanuel à l'hôpital, et il y avait les trucs avec... Ça, c'était le cerveau, je crois. Et puis il y avait le cœur aussi. Ça, c'est plus sinusoïdal. Voilà, le cœur marche bien. Ça, distance, diastole, très bien. Le cerveau, il y avait un quatrième, un troisième cadran, je ne sais plus ce que c'était. Bon. Et puis, ton père spirituel, il était très sympa avec moi. Et il avait la correction paternelle très, très, très facile avec moi. Il se met en colère contre moi en disant « Bon, là, comment ça ?»« Non, il me trou du cul !» Je dis « Mais père, vous êtes en train de mourir, c'est peut-être pas... Ta gueule !» Voilà, oui, oui. Et puis, je commence à voir l'écran de gauche. L'écran de droite. Et mon père, taisez-vous. Vous êtes mort.
Espèce de gros couillon! C'est le malade qu'il faut garder, c'est pas les écrans!
Alors, ça c'est le monde d'aujourd'hui. On garde les écrans, on regarde pas le malade. Et tiens, il est mort. Le cerveau, plat. Le cœur marche plus. Il est mort. Il est mort, puisque. Donc, il est mort. Médecin légiste arrive, il dit, il met les électrodes, il est mort. Il constate la mort, il signe, il est mort. Il n'est pas mort. Vous savez, la plupart des hommes meurent. L'âme se sépare du corps, consciemment, hein. Il est lié au corps. Il y a le génome, la memoria dei. L'ADN toujours vivifié par l'âme. Comme au premier jour de sa conception, pareil, les 19 premiers jours. Je vous affirme, moi je suis sûr de ce que je dis. Les gens, après leur mort, vivent encore au moins une dizaine de jours. Hein. Quelques-uns.
Alors ceux qui sont brûlés, alors ceux qui sont...
Ils brûlent, hein. Et je peux te dire que l'âme, c'est l'âme qui ressent, c'est pas le corps qui ressent le feu. Hein. C'est l'âme qui ressent le feu. L'âme, elle est végétative, c'est elle qui ressent le feu. Quand il passe au crématoire, je peux te dire qu'il sent le feu. Hein. Et il en chie. Hein. Quand tu mets ton papa ou ta maman dans le four crématoire, je veux dire, t'es vraiment un dégueulasse. Hein. Mais ça, c'est pas ça, c'est pas pour ça que je dis ça. Je dis une chose, c'est que le génome, lui, continue à être vivifié, la memoria dei. Il est toujours là, sa liberté extasie, c'est la vie intérieure de son corps encore vivant. C'est pas parce que le cœur, le cerveau ne fonctionne plus, ne réagit plus, qu'il est mort, il est là. Vous affirmez, si c'est vrai, c'est pour ça d'ailleurs que traditionnellement, quand votre papa, votre maman meurt, ou votre fils, vous faites vite, une chambre, comment dire,
mortuaire.
Mortuaire. Non, une chapelle. Une chapelle ardente. Une chapelle ardente. Sans arrêt. Sans arrêt.
On prie.
On fait des rosaires. On sème la messe.
On est à nuit.
Mais non, il est encore vivant. Je suis en train de vous expliquer. Il est encore vivant. Il est encore vivant.
D'accord.
C'est pas parce qu'au niveau clinique, il est mort. Le génome reste là, et je vous assure, ça dure ordinairement 4 à 5 jours. Quelquefois, un jour, si c'est un très grand, s'il est arrivé au mariage spirituel, je reconnais que c'est vrai, s'il a des horizons, il s'en va avant. C'est la même réalité par la première, dans le mariage spirituel, vous savez ça. Quand on a dépassé la sixième demeure, la Maria Dei part en première et le cœur s'arrête après et le cerveau aussi. C'est pour ça que les saints ils partent avant, ils ne connaissent pas l'état dont je vous parle, qui est réservé au commun des hommes qui se corrompent avant même qu'ils soient morts. Ils commencent déjà à sentir la corruption avant même que leur cerveau s'arrête. C'est sûr. Et ceux qui ont mis en place le corps spirituel, je veux dire non. Donc, c'est pas systématiquement qu'après la mort, on continue de vivre encore 3 ou 4 ou 5 jours. Mais ordinairement, oui. Vous savez, Dan Scott, qui est un docteur de l'église, quand même.
Ah bon, c'est pas ça.
Eh ben, quand on a ouvert son tombeau, eh ben, on l'avait mis comme tous les franciscains. On l'avait mis avec une croix comme ça. Et dans son tombeau, on l'a retrouvé recroquevillé, en se mordant le doigt comme ça. Donc ça, on l'avait enterré vivant.
Ah oui. Hein.
Ça, vous connaissez l'histoire de la mort de Sainte Thérèse d'Avila?
Du coup, il n'a pas été canonisé.
Bah, c'est à cause de ça qu'on a hésité à le canoniser, mais finalement Jean-Paul II a dit, allez, on va faire plaisir aux franciscains. C'est pas gênant. Au bout de 6 siècles, peut-être qu'il a terminé son purgatoire. Mais le pauvre, c'est pas parce qu'on a intérêt. C'est pour dire, attention.
Sainte Thérèse d'Avila.
Ah bah Sainte Thérèse, vous connaissez l'histoire de Sainte Thérèse d'Avila. L'histoire de Sainte Thérèse d'Avila, c'est tout simple, c'est... Elle meurt à 47 ans. 47, c'est très important. Il faudra que vous nous fassiez un petit briefing sur la sur le génie mathématique des structures. Non mais je le tiens ici au col. Je veux qu'il nous fasse une petite quelque chose sur le génie mathématique des structures que les mauvais possèdent, tiennent entre leurs mains, mobilisent, manipulent selon ce qu'ils veulent. Et lorsque vous nous aurez un peu expliqué ça sur le plan latéral, horizontal, vertical et latéral aussi, mais aussi basique, à ce moment-là, on prendra autorité. Je vous promets, j'espère que ce sera noté, et on en prendra autorité, et on fera le prix d'autorité pour balancer ça, une espèce de bombe tachyonique. Ils n'auront plus aucun pouvoir sur les structures. Parce que je vous assure que vous n'avez pas fait ce parcours pour rien.
Oui.
Croyez bien. Ça, j'en suis absolument certain. J'en parlerai au roi, si je le rencontre. On va vous mettre ministre de la ligne de démarcation. Oui, oui. Mais de ça, je reviens sur mon truc, puisque j'ai perdu le fil. Thérèse d'Avila, donc à l'âge de 47 ans mort, qui connaît, tout le monde connaît l'histoire ou pas?
Non.
Tout le monde la connaît quand même.
Elle meurt à l'âge de 47 ans. Alors, elle était une religieuse très très priante, très fervente, très pétulante, mais elle aimait beaucoup parler, expliquer, évangéliser, s'exprimer, naninana. Dans le parloir et tout, elle faisait des instruments de musique.
Pas encore le
elle n'était pas encore rentrée dans l'Union transformante, c'était une religieuse très charismatico, fervente et tout ça, et très pétulante et tout ça, mais elle aimait bien que... Et donc elle meurt là-dessus, 47 ans. Tout le monde l'aimait beaucoup, énormément, hein, c'est vrai. Et donc, on la met dans son cercle, mais son papa n'a pas supporté. Dis-moi, je veux pas. Vous ne mettez pas le plateau dessus, il faut le laisser ouvert. Donc le troisième jour, pour l'enterrement, il dit, non, il n'y a pas d'enterrement le troisième jour. Non. C'est hors d'ici, on part. Le cinquième jour, on l'emporte pour les funérailles. Il dit, non, ne portez pas. Elle reste ici. Hein. Et on arrive jusqu'au septième jour. Et le septième jour, elle ressuscite entre les morts. Non mais, vous croyez que je vous raconte une blague peut-être?
Non.
Christine, faudra revenir. Hein.
Non mais, je vous raconte l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé?
La journée ping-pong aujourd'hui.
Non mais, hier aussi alors. Ça fait
unité sponsale sur la terre sans annulation. Divine éternelle, unité responsable, surnaturelle.
Le père l'avait
chanté. Transactuation divine avec elle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour la brave chère Sainte Thérèse d'Avila? Elle est partie. Elle effectivement, elle est décédée. Elle a quitté. Elle a été emportée devant le jugement, devant Jésus et l'Immaculée.
Il y a eu des discussions, il y a eu des elle a vu quelque part la touche même de la présence de Dieu au-delà du voile, mais sans que le voile se déchire. Elle a été très très touchée par ça et elle a dit, est-ce que vous acceptez de revenir si vous ressuscitez d'entre les morts, vous revenez pour expliquer à l'Église tout entière comment on fait pour rentrer dans la transformation de Dieu par Dieu lui-même à travers une âme qui a accepté de mourir dans la mort de notre Seigneur Jésus-Christ à la manière de Saint Joseph. Alors, elle a dit oui, et elle a ressuscité d'entre les morts. Et c'est là qu'elle est devenue donc Sainte Thérèse d'Avila, et que bon, bah, il a fallu donc qu'elle fasse ce qu'il lui avait été dit. Et donc ses supérieurs, le provincial des Carmes, lui a demandé au nom de la Sainte Obéissance d'écrire sur l'union pour la transformation. Donc le jour de la Très Sainte Trinité, la fête de la Très Sainte Trinité, elle a commencé à rentrer dans cette obéissance. Elle a dit, mais comment je peux expliquer tout ça? Et c'est là qu'a eu l'apparition, elle a vu, elle savait ce que c'était que le corps spirituel, donc elle a vu donc ce diamant, ce fameux diamant, vivant, où la matière, le minéral extrêmement pur et immaculé, était pénétrée de l'intérieur par la paternité créatrice de Dieu. Elle a vu le corps originel de l'homme. Et elle a vu comment le péché originel venait l'engonguer quelque part, sans supprimer rien du tout, c'est juste périphérique. Et comment petit à petit la purification se fait de Jésus, le sang de Jésus pénètre la gangue noire, etc. Les vers, tout ça, et petit à petit rejoint le corps originel de l'homme pour puisse être adapté au corps spirituel venu d'en haut, qu'il est lui-même. Et donc, elle voit donc les sept demeures de la transformation progressive à travers cette vision. Et du coup, elle a écrit les sept demeures de l'union transformante et le château à partir de là. Et bien, tout ça pour dire de quoi? Pourquoi je parle de ça? Parce que c'est curieux que l'union transformante, c'est lié au corps originel. Le premier, le diamant du Saint des Saints, où Dieu est en train de me créer, je suis moi-même, ce diamant, à l'état pur, mais qui, évidemment, c'est ça le problème de la transgression originelle, n'a plus cette espèce de pétulance surnaturelle et divine qu'il est en lui-même, dans la transfiguration de son oui. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que, par rapport à la mort, c'est elle qui vient de la mort, qu'on ne peut faire comprendre ce qui se passe dans la vie qu'à partir du corps primordial, du premier génome. Et puis la mort est liée au corps, le corps humain n'est un corps spirituel humain pas à cause des organes. Et c'est pareil pour la signification sponsale du corps. La différenciation sexuelle n'a strictement rien à voir avec les organes, avec les hormones, avec le féminus, fémina, avec les Lacan, là. Animus, anima, hein, avec les psychologies des profondeurs, espèce de l'ontologie jamaïque.
Il vient de mourir.
Hein?
Il vient de mourir.
Ouais, ben, tant mieux pour lui.
Non. L'évangélisation des profondeurs.
Ah, l'évangélisation des profondeurs, oui. On l'a fait exploser.
Non, mais c'est pas bon.
Eh bien, Sainte Thérèse d'Avila, donc, elle a connu la mort, voyez, elle était morte. Et heureusement que son papa l'aimait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ben, sinon, on l'aurait mis dans la terre.
Il
voulait pas, il voulait pas l'avoir. D'autant plus, elle sentait pas encore mauvais. Donc,
ils
disent, je la garde. Hein. Alors, voilà. Donc tout ça, c'est vraiment incroyable. C'est pas incroyable, c'est croyable. Et quand elle est revenue, elle était stigmatisée. Hein, elle était quand même transverbérée 7 fois. elle a été transformée cette fois dans son cœur. Son cœur ne fonctionnait plus, puisqu'il y avait des plaies qui étaient plus grosses que mon pouce, là. Vous voyez mon pouce, là? Il est quand même assez gros, hein. Traversé de part en part, son cœur. Un cœur, c'est gros comme ça, à peu près. Hein. Moi, j'ai vu à la radio, j'ai mon cousin qui m'a fait une radio sur mon cœur. C'est un cardiologue. Il me dit, ton cœur... Je dis, mais c'est aussi gros que ça, un cœur? Je dis, c'est presque aussi gros que le poumon. Il me dit, le tien, oui, il est un peu plus gros que les autres. Mais le cœur de Saint-Thérèse d'Avila est traversé de part en part. Cette fois, waouh, mais des trous comme ça, tu peux mettre ta main. Et elle le disait. Donc son cœur, humainement, médicalement, il ne marchait pas. C'est un peu comme l'œil avec la télé. L'œil droit avec la télé de Jean-Marc. Il marche de manière différente. Il marche, il y a quelque chose qui marche autrement. C'est un carême peut-être. Si bien que quand elle est morte une deuxième fois, on a ouvert un scalpel, comme ils savaient faire à cette époque-là. Et ils ont sorti le cœur, effectivement, les trous. Il y avait 7 trous énormes dans son cœur. Vous voyez bien que ce n'est pas les organes qui font fonctionner le corps.
Les organes étaient pareils avec Bernadette Soubirous.
Il faudrait parler de Sainte Bernadette Soubirous. C'est vrai, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire que c'est le cœur de Jésus, de Marie et de Joseph qui battaient dans sa poitrine. C'est pour ça qu'il y a 7. Il y a 7 transverbérations. La transverbération incarnée dans notre cœur, ça fait partie essentielle de l'ouverture du cinquième saut de l'Apocalypse. Je vous signale comme ça au passage. Bon, alors c'est pour ça qu'à force de mettre son centre de gravité dans la signification sponsale du corps, dans la signification d'innocence triomphante de notre corps, et dans la signification du corps mystique terminal de Jérusalem glorieuse, tout ça va faire que finalement on rentre dans une vie qui finalement passe le premier mur de la mort. C'est-à-dire la mort apparente.
Alors, je peux vous poser une question.
Ça, je sais pas.
Vous parlez de ceux qui mon père a demandé d'être. Alors, est-ce qu'il faut que je demande une messe en réparation pour ces trois personnes? Parce que moi, on ne m'a pas demandé mon avis pour mes deux parents. Mon père avait demandé d'être incinéré. Maman a suivi, et mon frère, du coup, ben, lui, il était gravement malade, il avait plus toute sa tête. Alors, je ne sais pas. Parce que je me dis, ben alors, ils ont vraiment souffert.
Ah, ça c'est sûr.
Ben voilà.
Ça, ils ont cramé, hein, ça c'est sûr. Ils ont cramé, ça c'est évident. Si vous entendiez, mettez Jean-Marc comme ça à une crémation. Il va vous dire ce qui se passe.
Ah non, moi je.
Non, alors donc.
Moi j'y vais pas en tout cas.
Donc ma question.
Je ne veux pas entendre des cris. Hein.
Alors que ma question, est-ce que je peux demander une messe de réparation?
Ah, vous pouvez demander toutes les messes de réparation.
Bah, qui c'est eux qui ont brûlé?
Bah, mon père, ça c'est sûr, c'est lui qui l'a demandé. Et maman, bah, elle n'a plus toute sa tête non plus, délirée. Bah, je crois que si, elle avait demandé...
Je m'excuse, mais enfin, si quelqu'un est un peu la foi et le chrétien, je suis désolé, on n'a pas besoin d'une explication théologique ou du catéchisme ou de la permission du Vatican. Hein.
Oui.
Je veux dire, voilà, si le Padre Pio il meurt, on va le mettre au four crématoire.
Non.
La Sainte Vierge, elle meurt, là. Allez vite, les apôtres, ils la prennent, d'ailleurs. Comme les bouddhistes, allez, on brûle.
Moi, je dis à mes filles, moi je
ne
veux pas être
n'importe quoi. Les chrétiens respectent le corps parce que le corps est vivant et le corps reste vivant. Il reste toujours vivant, quelque part, puisqu'il est promis, il est potentiellement adapté à la première résurrection et adapté substantiellement à la seconde résurrection. Donc on ne brûle pas
le corps. Bon, si les gens vous brûlent comme on a fait pour Jeanne d'Arc, bon, ça vous y pouvez rien, je veux dire, c'est pas grave, mais enfin nous on respecte le corps quand même. C'est vrai, il y a une espèce de manque de respect du corps, peut-être qu'il est séparé, ça va pas, hein. Donc il y a peut-être une faute, vous voulez faire une messe de réparation, parce que vous pensez qu'il y a une faute. Question, est-ce qu'il y a une faute? Réponse, oui, il y a une faute. Une faute contre la foi. Je ne parle pas de vous, je parle de ceux qui font ça. Je parle de ceux qui disent, moi je veux être crématorié. Bien sûr qu'il y a une faute.
Oui, mais l'église devrait interdire.
Ah, l'église.
L'église tolère. Elle commence à tolérer.
Parce qu'il y a plus de place dans le cimetière.
Il y a toujours la place de la cimetière, mais il faut faire des questions. Et en même temps, les gens se font avoir parce que ça coûte quand même, la crématorium, je crois que ça a coûté 7000 euros quelqu'un m'avait dit.
Ah oui. Alors par contre, je peux encore sauver ma soeur.
Autant aller au cimetière.
Du coup, je peux encore sauver ma soeur parce qu'elle s'est gardée une place à côté de mon frère dans le cimetière.
Alors
je lui dis, attention, attention, non, le fais pas. Mieux que tu te fasses enterrer normalement, puis je lui en parlais à son fils. Dire allô Romain, tata, ta mère, enterrer normalement.
Les gens ne savent pas que c'est une faute. Enfin, c'est ça le problème. Tu dis que c'est une faute,
ouais, mais
et les gens ne le savent pas.
Non, mais l'église devrait dire un mot.
L'église dit tu plonges ton corps, ton âme et ton esprit dans le sang Christ, dans le baptême. Donc tu es membre vivant du corps mystique, vivant de Jésus vivant, jusqu'à dans ton corps. Donc tu respectes ton corps. Et quoi, tu fais quoi? Et puis tu vas le mettre dans un espèce de pot, et le pot tu vas le mettre je sais pas où, tu vas le verser dans sur l'Himalaya, dans l'océan, ou alors dans ta chambre en disant voilà, je suis là. C'est comme les... Bon, je m'excuse, c'est horrible. Maintenant les femmes, elles font des avortements, d'accord? Et puis elles demandent à l'embryon, et ils cristallisent l'embryon, faites-moi un petit bijou, alors ils font un petit bijou comme ça, avec l'embryon dedans. Comme ça je garde mon enfant, j'ai avorté mais je le garde avec moi. Ah oui, alors, il y a un commerce, ça coûte pas cher, le bijou, 1200 euros. Donc voilà, ça peut pas aller ça.
Aux États-Unis,
ça peut pas aller, ça peut pas aller. Un cimetière, c'est un lieu sacré.
Non mais c'est de la folie.
Il y a deux lieux sacrés dans le monde. Les églises, les temples, qui sont réservés au culte de Dieu. Et les cimetières. Les cimetières sont des lieux saints, sont des lieux sacrés. Et donc les chrétiens, ils veulent être enterrés dans un lieu sacré, un lieu béni, un lieu préparé pour la première et la seconde résurrection. Il ne faut quand même pas oublier que parmi, dans les cimetières, le jour de la première résurrection, pas la résurrection de la fin du monde, bien avant, des millénaires avant, les cimetières vont surgir du tombeau, comme Thérèse d'Avila, un certain nombre de gens, hein.
Déjà la,
eh oui,
la mort du
Christ,
la mort du Christ est arrivée.
Je peux vous dire, ceux qui sont fait crématorier, ils n'en font pas partie.
Ah ouais,
hein? À la mort du Christ.
Je parle de la première résurrection, vous n'avez pas écouté.
Parce que vous causiez.
Ah, vous causiez. Donc, non, vous pouvez pas. On parlait de la première résurrection.
C'était une faute.
Transigeant avec ses meilleurs élèves, c'est pour ça. Non,
mais... Bon, alors, tout ça pour vous dire, attention, quand vous allez, ne vous inquiétez pas, lorsque vous vous endormez dans la mort, n'oubliez pas que c'est pas la mort. Vous êtes encore là. Et vous pouvez faire oraison comme ça, dans l'émission invisible du Saint-Esprit, vous avez dit, explicitement, librement, dans la passivité substantielle, et la signification responsable de votre corps primordial accompli dans l'arbre de vie. Vous avez 3 jours et demi comme ça, en principe, si vous n'êtes pas encore arrivé. Si vous n'êtes pas encore arrivé au mariage spirituel. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas ça, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bon, alors si vous voulez bien, je pense que il est l'heure de prendre un repas.
Bien froid. Ah oui, c'est deux fois que je le chauffe. Hein.
Ah non, mais là on va le chauffer. Non, mais fallait nous le dire. À 3h, dans 10 minutes,
oui,
tout le monde peut prendre un petit. J'espère, je demande pardon. Nous demandons pardon à tous ceux qui ont été secoués, blessés.
Ah non, c'est une grande différence par rapport.
Mais on ne peut pas entendre les interventions des... ceux qui veulent donner la matière à, leur... à la prière d'autorité.
Un témoignage sur un prière sur un cimetière, s'il vous plaît, Patrick.
Hein?
Un témoignage sur un prière dans un cimetière.
Un jour, j'ai prié à Radon dans le cimetière d'Aradon. Je peux vous dire que c'était sensationnel. J'avais l'impression que tout le monde chantait dans le cimetière et tout. J'étais tout seul. Et j'ai prié sur toutes les tombes. Mais de ma famille, des trucs et tout. Et puis en même temps, je dis, tous ceux qui n'ont pas de personne, je vais prier pour eux. C'était formidable. J'entendais des chants et tout. Ah oui, mais c'était toute l'après-midi. Toute l'après-midi, je priais. Toute l'après-midi, je priais. Je peux vous dire que le ciel était content. Ah oui,
ils étaient très contents. Bon, je vous ai laissé une petite truc sur l'Alexio Divina. Si vous ne voulez pas, vous me les rendez. Si vous voulez les garder, vous pouvez vous inscrire sur le forum Le Peuple de la Paix et puis faire un petit témoignage sur ce que l'expérience que vous avez pu faire.
Cet après-midi, on peut faire ça après le déjeuner.
On pourrait faire ça aussi.
On va voir à quelle heure on terminera.
Pour voir la photographie.
Ça, c'est pour la faire pour
Actuation. Je pense qu'il te manque une page de
Divine éternelle.